Je propose une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 9. Marc 9, deux versets, versets 33 et 34. Marc 9, 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Les disciples sont étonnants, n'est-ce pas ? Qui est le plus grand parmi nous ? Discussion sur le chemin. En bien d'autres occasions, ils nous surprennent aussi. Ainsi, lorsque, par exemple, juste après la multiplication des pains, alors que Jésus leur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens », ils se disent entre eux « C'est parce que nous avons oublié le pain ». Ou lorsque Jacques et Jean sont prêts à faire descendre le feu du ciel sur ce village samaritain peu accueillant. Qui est le plus grand parmi nous ? Quelle question ! Je dois dire avec quelque satisfaction qu'en une trentaine d'années passées au sein du Conseil en tant qu'ancien, mes frères et collègues et moi-même n'avons jamais traité d'un tel sujet. Et je suis certain que cette question n'était pas à l'ordre du jour du Conseil de lundi dernier. Je n'imagine pas Étienne, Matthieu, Paul et d'autres discuter âprement pour savoir qui d'entre eux serait bien le plus grand. Au crédit des disciples, l'on peut penser que leur discussion avait plus rapport à leur engagement auprès de Jésus qu'à des qualités et caractéristiques plus prosaïques. Vraisemblablement, leurs réflexions et considérations tournaient surtout autour de choses comme le fait d'être le plus proche de Jésus, le plus engagé dans le service, ou quant au fait d'avoir abandonné plus de choses pour suivre Christ, plus de choses que les autres. Par exemple, Matthieu, peut-être, le percepteur des impôts, pouvait-il penser avoir abandonné plus pour suivre Christ que ce n'était le cas pour ses pécheurs, Pierre, Jean et autres. Il n'empêche, les disciples sont gênés lorsque Jésus leur demande de quoi ils ont parlé en chemin. Ne nous arrive-t-il pas de nous poser nous-mêmes ce genre de questions ? Sans doute pas sous cette forme, sans doute pas dans le cadre d'une discussion entre nous, mais en nous-mêmes peut-être. Suis-je mieux ou moins bien que les autres ? Fais-je mieux ou moins bien ? Certainement, nous n'échapperons pas toujours à nous comparer aux autres et être ainsi tentés soit de nous penser supérieurs dans un domaine ou un autre, soit à l'inverse, de nous sentir largement, parfois irrémédiablement inférieurs, incapables de nous comporter et vivre comme ceux qui nous entourent, que nous admirons et envions peut-être sans espoir de les égaler quelque peu. Il est naturel à l'homme de faire des comparaisons. N'est-ce pas là l'esprit même de toute compétition sportive ? Qui est le plus rapide sur 100 mètres ? Qui est le numéro 1 mondial au tennis ? Quelle est la meilleure équipe de foot européenne ? Parfois, le résultat même des compétitions donne la réponse. Usain Bolt est le meilleur sprinter. Facile. Mais parfois, les comparaisons que nous envisageons n'ont pas de résultats objectifs, sont même parfois totalement subjectives. Ainsi, j'aime bien, je dois dire quant à moi, m'amuser à des comparaisons impossibles. Quels ont été les trois plus grands pilotes de l'histoire du sport automobile ? Quels sont les six meilleurs romans de la littérature mondiale ? Etc. Je veux dire que lorsque je propose à ma femme ces sujets de réflexion intéressants le matin lors du petit déjeuner, elle a, il est vrai, un peu de mal à se passionner et proposer des réponses. Comparer les uns aux autres, se comparer soi-même aux autres, c'est là quelque chose de fréquent. À quoi nous sommes tous plus ou moins tentés de céder de temps en temps. Qui est le plus grand parmi nous ? vous propose ce matin une réflexion sur le résultat de ces comparaisons des autres avec nous-mêmes. Comparaisons souvent inutiles sans doute, voire pernicieuses peut-être, mais auxquelles il nous est parfois difficile de renoncer. Nous envisagerons une position de supériorité supposée, puis une position d'infériorité ressentie, avant de regarder un exemple que nous voulons considérer pour tenter de lui ressembler. Et c'est bien sûr à Jésus-Christ que nous nous référerons alors. Se croire plus grand que les autres. Vraisemblablement, nous l'avons déjà dit, les disciples n'accordaient pas grande importance à la beauté physique, à la taille, à la prestance, non plus sans doute qu'aux études accomplies, etc. Est-ce toujours la même chose pour nous ? Il peut nous arriver de nous sentir supérieurs aux autres parce que nous avons fait de plus longues études, parce que notre métier paraît plus brillant que d'autres, parce que nous avons fait... parce que nous sommes plus riches peut-être que d'autres, parce que notre rôle dans l'Église est plus en évidence, parce que nous sommes jeunes et dynamiques, même si vraisemblablement vous avez plus de 11 ans. L'avenir est à nous, parce que plus âgés, nous savons mieux que ces genoux qui pensent être déjà arrivés, parce que nous sommes plus doués pour parler, pour aller vers les autres, parce qu'encore, notre famille est bien établie dans l'Église depuis des générations. Il peut y avoir tant et tant de raisons de nous sentir, de nous penser supérieurs aux autres. L'orgueil nous atteint assez facilement et nous croyons pouvoir jouir de beaucoup de ce qui nous a été donné en nous croyant mériter quelque gloire à ce propos. Et bien sûr, nous nous trompons. Nous pouvons penser à ce que l'apôtre Paul écrit quand il s'adresse à ses amis de Philippe, au chapitre 3 de la lettre aux Philippiens. Nous lisons ceci, verset 4. Pourtant moi-même, dit Paul, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Humainement parlant, Paul avait matière à se regarder comme supérieur à beaucoup d'autres. Et certainement, dans son parcours après sa conversion, il aurait également eu matière à se glorifier de ses œuvres, de son ministère, de ses écrits, de sa fidélité à son Seigneur. Il est douteux qu'aucun de nous ait autant, et encore moins, plus sujet à orgueil et supériorité que l'apôtre Paul. Et ce que Paul conclut lorsqu'il parle aux Philippiens, ne devons-nous pas, nous-mêmes, y souscrire pleinement ? Il poursuit dans cette même lettre, au verset 7 et suivant. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Je suis ancien dans l'Église. Est-ce matière à m'enorgueillir ? N'est-ce pas plutôt que je suis au service de mes frères ? Équipé par Dieu pour ce ministère ? Suis-je en mesure de donner largement à l'Église ? Suis-je orgueilleux à cause de cela, même si je garde cet orgueil caché en moi ? Que fais-je d'autre que de rendre un peu à Dieu de ce qu'il m'a donné lui-même si largement. J'ai un ministère de prière. C'est une belle et bonne chose, mais n'est-ce pas l'Esprit qui me guide et m'inspire ? Y a-t-il là raison pour me penser supérieur à ceux qui, me semble-t-il, passent moins de temps que moi dans la prière ? J'exerce l'hospitalité fréquemment, généreusement. Il me semble que d'autres le font moins que moi. Mais cela ne m'a-t-il pas été donné ? Un logement assez grand pour accueillir ? Les ressources financières pour le faire ? Pourquoi pas les dons culinaires pour que mes invités aient plaisir à partager notre repas ? Ou dans d'autres domaines que nous pourrions évoquer, une foi très grande, une assistance fidèle à la plupart des réunions de l'Église, un ministère consacré auprès des enfants, une connaissance impressionnante de la Bible, etc. Tant de raisons, mais de mauvaises raisons, de se penser supérieur aux autres. À l'inverse, se voir plus petit que les autres. Jésus invite ses disciples à ne pas se croire supérieur aux autres, mais se vouloir le serviteur des autres, s'effacer devant les autres, se reconnaître comme le plus petit, c'est-à-dire faire preuve d'humilité, de modestie. Mais je crois qu'il ne s'agit pas là pour autant d'une invitation de Christ à se sentir nul. Pas du tout. Vous connaissez cette collection d'ouvrages pour les nuls. L'Union européenne pour les nuls. Le badminton pour les nuls. L'art primitif pour les nuls. Etc. Bon, j'ai inventé ces titres pour plusieurs d'entre eux, mais... Un livre est paru dans cette collection récemment. Un livre certainement intéressant, utile, bien fait, grandement positif. Mais le titre a suscité une réaction chez moi. Jésus pour les nuls. Je sais bien l'intention tout à fait louable de l'ouvrage. Et beaucoup, nous l'espérons, liront ce livre et connaîtront quelque chose de la personne et de l'œuvre de Christ. Et cela est précieux. Mais permettez-moi de le dire, Jésus, ce n'est pas pour les nuls. Certes, souvent, très souvent, nos actes, nos œuvres, nos vies, nos pensées, nos sentiments sont nuls aux yeux de Dieu. Mais pas nous-mêmes. Dieu a créé l'homme à son image et Christ n'est pas mort pour des nuls, sans valeur, sans intérêt. Christ n'est pas pour les nuls, il est pour les pauvres, pour les misérables, pour les malheureux, pour les pécheurs, pour les abandonnés, pour les découragés, pour les faibles. Il est pour nous, il est pour vous, il est pour moi. Si nous nous sentons nuls, nous nous trompons et nous n'apprécions pas ce que Dieu a créé. Je te loue, dit le psalmiste, de ce que je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse, faite à ton image. Alors certes, nous sommes faibles, fragiles, passagers, mais nous sommes pour autant créatures de Dieu, faites à son image. Et Dieu attend quelque chose de nous, quelque chose de précieux, car nous sommes tous précieux à ses yeux. Nous pouvons certes reconnaître que nos frères et sœurs sont plus doués que nous, font mieux que nous. C'est souvent le cas. Je prêche ce matin, mais je ne suis pas John Piper. Je prêche parce qu'on me le demande, parce que Dieu m'a donné quelques dons pour cela, insuffisants certainement. Je prie, mais je n'ai pas une foi aussi grande que beaucoup de mes frères et sœurs. Je m'efforce d'être accueillant, aimable et généreux, mais tant parmi vous l'être davantage et mieux. Je traverse les épreuves de la vie tant bien que mal, dans une foi souvent trop faible. Et j'admire la foi, la confiance, l'endurance de beaucoup de mes frères et sœurs. Mais Dieu m'accompagne quand même, qui m'a donné cette foi et une endurance suffisante. Le roi David, le berger David, ne s'estimait certainement pas supérieur aux autres. Il reconnaissait la grâce que Dieu le faisait de le vouloir à son service. Mais la faiblesse qu'il savait être la sienne ne l'empêchait pas de reconnaître et d'utiliser les qualités, les dons que Dieu lui avait donnés. C'est un David humble, conscient de sa faiblesse, mais confiant en son Dieu qui domina le géant Goliath. David n'est pas resté sur le côté en se disant « je suis trop nul, je suis trop faible ». Il sut se servir des qualités données par son Dieu. Et si Moïse, Jérémie, Gédéon et d'autres hésitent à accepter les missions que Dieu veut bien leur confier, ce sentiment de leur insuffisance ne les empêche pas d'entrer dans le service de leur Dieu, mettant leurs qualités en pratique pour cela. Dieu se sert des faibles, des pauvres en esprit, des humbles, de nous donc. Et si je suis le plus faible, le plus petit, le plus modeste, mais que Dieu me fait cet honneur de me vouloir avec lui, à son service. Que m'importe ? Que m'importe d'être inférieur aux autres, plus petit qu'eux ? Dieu m'aime. Ai-je besoin de plus que cela ? Un exemple auquel se comparer. Bien sûr, l'exemple, c'est Jésus-Christ. Se comparer à lui, peut-être cela n'a pas vraiment de sens, qui est semblable à lui. Il est Dieu. Il est celui par qui le monde a été créé. Il est le Fils unique aimé du Père. Il est le premier et le dernier. Il est l'agneau immolé. Il est le Sauveur crucifié, ressuscité et glorifié. Le plus grand, le seul grand. Et celui qui s'est humilié jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Le Maître et Seigneur, et celui qui lava les pieds de ses disciples. Il est notre Seigneur, notre Maître, et celui qui a souffert pour effacer nos péchés, mes péchés. Me comparer à lui, sans doute pas, mais le prendre comme l'exemple suprême, oui, chercher, animé par l'Esprit, à lui ressembler, à l'imiter. L'imitation de Jésus-Christ, ce livre de Thomas à Kempis, un beau titre, un beau livre et un beau programme, imiter Christ, lui ressembler, l'imiter, avoir en nous les sentiments qui étaient en lui, lui qui n'a pas considéré de fils qu'il était comme une proie à arracher, d'être semblable à son Père, mais s'est humilié lui-même volontairement par amour pour nous pécheurs, prenant sur lui notre misère, nos péchés, notre condamnation. Le châtiment qui nous menaçait, dit Ésaïe, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comment pouvons-nous ressembler à Jésus ? Soyons humbles, modestes, prêts à servir notre prochain. Apprenons à aimer l'autre, à rechercher son bien. Mettons Dieu à la première place dans notre vie, et son service, et celui de nos frères et sœurs. Ne tomberons pas dans l'orgueil de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, mais en toute chose, rendons gloire et reconnaissance à Dieu. Vivons sainement et saintement, rejetant le mal, l'immoralité, l'attachement excessif aux choses de ce monde. Défions-nous de faire de quoi que ce soit, de qui que ce soit, des idoles. Soyons patients, doux, compatissants, généreux, prompts à pardonner, à aider, à encourager. Veillons sur nos comportements, nos actes, nos pensées. Rejetons ce qui est mauvais, malsain ou inutile. Quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Si nous regardons à nous-mêmes et à nos vies, en pensant en même temps à Christ, y a-t-il moyen de nous regarder comme grands ? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu ? Qu'est-ce qui pourrait me justifier, sinon le sang de Christ ? De quoi pourrais-je être orgueilleux en face de la grandeur de Christ ? Puis-je autre chose que me sentir bien petit ? Mais d'un autre côté, lorsque je me sens inférieur, que je vois peu de choses dont être fier, lorsque je me sens misérable, nu, nul, puisse penser que Jésus, lui, me voit autrement. Il me voit autrement. Il me voit, et son Père me voit, comme l'un de ses petits, l'un de ceux qui ont reçu un nom nouveau, un nom précieux, qu'il est seul à connaître et qui établit une communion parfaite avec lui. Je suis précieux pour lui, précieux au point qu'il a accepté de mourir pour moi. À peine dit la parole, mourrait-on pour un homme juste ? Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien ? Christ a montré son amour envers nous en mourant pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Qui m'accusera ? Qui me dépréciera ? Qui me regardera comme quelqu'un sans valeur, sans intérêt, sans importance ? Qui me rejettera ? Qui me condamnera ? Il est quelqu'un qui m'a regardé, qui me regarde et me regardera dans l'éternité comme l'un des siens, comme l'une de ses brebis, qui ne perdra jamais, n'oubliera jamais. Les disciples discutent entre eux sur le chemin. Qui est le plus grand parmi eux ? Nous ne savons pas s'ils sont arrivés à un consensus, c'est douteux. Jésus va reprendre ce sujet de leurs échanges. « Celui qui veut être le plus grand, leur dit-il, doit se faire le serviteur de tous. » Dans l'évangile de Marc, Jésus poursuit. Il s'assit, il appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier. Jésus, comme souvent, inverse les choses et l'on voit combien ses pensées, ses valeurs sont différentes des nôtres, dans ce que nous pensons et valorisons naturellement. Vous vous pensez plus grand que les autres, vous voulez être plus grand, soyez les serviteurs des autres. L'évangile, ce n'est pas pour les glorieux, pour les fiers, pour les orgueilleux, pour les savants, mais c'est pour les humbles, pour les pauvres, pour ceux qui se savent faibles, en besoin, qui se croiraient nuls si ce n'était que Christ leur dit qu'il les aime à en mourir. L'apôtre Paul, dans sa lettre, première lettre aux Corinthiens, exprime bien ces choses, ces questions de grandeur, d'orgueil, de faiblesse et d'espérance. Et il reprend là, en quelque sorte, le thème même de cette discussion que les disciples ont sur le chemin et qui est le thème de notre réflexion de ce matin. Je vous invite à lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 26. « Considérez, dit Paul, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Mes amis, comment nous regarder ? Comment nous regardons-nous ? Comment nous regardons-nous nous-mêmes et nous comparons-nous aux autres, à nos frères et sœurs ? Sommes-nous contents de nous-mêmes, intimement persuadés d'être quand même, sinon le plus grand, au moins l'un des plus grands ? Pensons-nous, à cause de cela, mériter plus que les autres ? Nous pensons-nous exemplaires dans tel ou tel domaine, au moins ? Pour la modestie, je ne crains personne. Ou au contraire, nous regardons-nous sans parvenir à nous réjouir pleinement de ce qui nous est donné, estimant, continuant trop à regarder à nous-mêmes, à notre faiblesse, à notre insuffisance, plutôt qu'à regarder à Christ, à qui il est à ce qu'il est, à ce qu'il a fait pour nous, à son amour pour nous. Tout nous est donné. Tout devrait nous réjouir. Mais nous continuons à penser, selon à dire « Oh, je suis trop nul, je ne vaux rien, je ne peux rien. » Mais regardons plutôt à Christ qu'à nous-mêmes. Soit pour nous admirer nous-mêmes, mais c'est bien dérisoire, n'est-ce pas ? Soit pour nous désoler de ne pas être mieux que ce que nous sommes. Oui, ce qu'il faut, c'est regarder à Christ. C'est toujours regarder à Christ. C'est apprendre à mieux le connaître. C'est apprendre à l'écouter, à le suivre, à lui confier notre vie. C'est apprendre à l'imiter. C'est apprendre à l'aimer. Lui qui nous aime, qui nous a aimés comme nous étions, qui nous aime comme nous sommes, d'un amour qui ne peut se tarir, qui ne peut s'évanouir, qui nous aime aujourd'hui, qui nous aimera demain, qui nous aimera toujours.